La Marche du Monde, Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée cette semaine à l'un des meilleurs spécialistes de la Seconde Guerre mondiale. Dans son dernier livre intitulé « Face au passé », Henri Rousseau s'interroge sur la place que nous donnons au souvenir des grands traumatismes collectifs dans notre société. Il montre combien la mémoire est devenue une valeur universelle et l'oubli une posture condamnable. Car dans nos sociétés contemporaines, écrit-il, oublier un crime, ce serait le commettre une seconde fois.
Voie A, éloignez-vous de la bordure du quai. Vichy, ici Vichy, assurez-vous de n'avoir rien oublié dans le train.
À l'heure où la France n'a jamais autant commémoré son passé, nous sommes partis redécouvrir la ville de Vichy sur les traces de l'ancienne capitale de l'État français, là où le gouvernement du maréchal Pétain s'est installé de 1940 à 1944 après avoir signé l'armistice avec l'Allemagne nazie. Mais la station thermale a-t-elle gardé la mémoire des années les plus noires de notre histoire ? Henri Rousseau, Face à Vichy, c'est dans la Marche du Monde sur RFI, guidée par les fondateurs du tout nouveau CIERV, le Centre International d'Études et de Recherche de Vichy, Jacques Thierry et tout de suite Michel Promera.
Bien, nous sommes en train de nous promener dans le centre de Vichy, dans les quartiers principaux, et notamment dans les lieux les plus emblématiques de la présence du régime qui s'est installé en 1940.
Moi, ce qui me frappe, lorsque tous ces hommes qui vont arriver ici, qui tiennent dans leurs mains le destin d'un pays qui est ruiné, qui s'est effondré par la défaite militaire un mois plus tôt, dans ce décor qui a été, enfin dans cette ville qui a été organisée pour, on va dire, les festivités, le bien-être, terme bon, qu'on n'utilise pas à l'époque mais qu'on pourrait appliquer aujourd'hui, est-ce que quelque part ça ne les a pas influencés, au moins psychologiquement, à se considérer un peu hors du monde, hors de la guerre? Alors si je dis ça, c'est pas du tout par hasard. C'est que l'une des grandes caractéristiques du régime qui s'est installé ici, à commencer par Philippe Pétain, puisque c'était l'un de ses messages essentiels et constants jusqu'à la fin de l'occupation, c'est que la France est désormais, une fois qu'elle a signé l'armistice avec l'Allemagne nazie, elle est hors de la guerre. Elle n'appartient plus, d'une certaine manière, à son temps. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Il dira même dans un discours, dans ses discours d'avril 1944, et même plus tard, après le débarquement, alors que la guerre est revenue sur le sol français, puisqu'après 1940, la guerre aura quitté le sol, au moins le sol métropolitain, pas les colonies, il va dire « cette guerre ne nous concerne pas ». Je vois, mais ça c'est une réflexion très, très intuitive, une sorte de correspondance entre cette ville qui a été organisée pour les festivités et le bien-être, qui avait une toute autre destinée a priori que celle qui lui est imposée par la fatalité en juillet 1940, et le fait que les gens, encore une fois, qui sont ici, sont quelque part complètement coupés de ce qu'est la réalité de l'Europe à l'époque, qui est un véritable charnier, au moins à partir de 1941. Toute la bonne partie de l'Europe, c'est un charnier, des villes détruites, une violence inouïe qui s'exerce partout. Et ici, c'est un îlot complètement épargné, protégé. Voilà, c'est juste une remarque comme ça, mais purement intuitive, parce que j'ai découvert sur le tard, hein, on a chacun nos défauts, à quel point le toucher, le terrain, pouvait être important pour un historien, lorsqu'il travaille sur des sources, sur des archives, sur des témoignages. Le fait de voir les lieux peut être extrêmement important.
Nous entrons ici dans l'église Saint-Louis de Vichy, et cette église Saint-Louis a été bâtie, construite en 1865 sur décision de Napoléon III, et en 1940 elle est devenue le lieu de culte hebdomadaire au moins du maréchal Pétain, qui venait assister aux offices régulièrement. ainsi que les dignitaires du régime, une partie des dignitaires du régime. Et c'est ici que la foule également se pressait, et dans une sorte de mise en scène de la personnalité du maréchal, accueillie ici par les vivas de la foule et les embrassades des enfants parfois. Je crois que c'est ici ou sur le parc voisin qu'on a une photographie du maréchal faisant sauter sur ses genoux des jeunes enfants.
Oui, ce qu'il faut dire, c'est que lorsque Pétain se met en scène dans cette toute petite ville de Vichy, à l'église, devant l'hôtel du parc, etc., tout ceci est filmé par les services de la propagande du gouvernement, et ces films sont diffusés. Ils sont diffusés dans ce qu'on appelait à l'époque les actualités, c'est-à-dire, c'était la première partie des salles de spectacle, notamment des salles de cinéma. Et donc, c'est en microcosme, ce qu'il montre, c'est ce qu'il pourrait ou ce qu'il aurait souhaité faire à l'échelle de la France, et qu'il ne peut pas faire compte tenu des circonstances de l'occupation. Et sa ferveur catholique est très marquée par le fait que l'Église catholique est un des piliers du régime. Le régime de Vichy, par beaucoup de côtés, est un régime relativement traditionnel, c'est-à-dire qu'il s'appuie sur les piliers traditionnels des dictatures classiques, c'est-à-dire l'armée, les grandes entreprises et l'Église. Et donc, alors ça ne durera pas, ça va se refroidir, on va dire, un peu à partir de l'été 42, mais c'est très important. Putain, on n'était pas un fervent catholique. Rien n'est laissé au hasard. C'est-à-dire, derrière ce côté bon enfant, un peu parfois ridicule, vu avec le recul, on a affaire à un régime qui a complètement intégré des techniques de propagande politique moderne et qui, elles, viennent directement, enfin, pas simplement du fascisme, mais en grande partie du fascisme.
Les différents lieux historiques de la période 1940-1944 sont très proches les uns des autres, mais ne sont jamais indiqués. Aucune information sur la présence de la dictature de l'État français. Pourtant, tout est là, et quelques pas suffisent pour rejoindre le Parc des Termes et les galeries Napoléon III, où se promenait le maréchal Pétain. Ces allées immaculées conduisent aux sources thermales et à l'opéra, unique par son architecture Art Nouveau, aux couleurs or, ivoire et jaune. C'est ici, à Vichy, que se joue la tétralogie du compositeur allemand Richard Wagner lors de l'été 1935.
Et cette année-là, en 1935, on a le journal de Vichy qui témoigne, avec les fiches de police qui étaient obligatoires, de tous les visiteurs étrangers au pays ou à la région, à la station. Et c'est là où on voit que tous les parlementaires viennent. Le maire de New York vient passer une semaine à Vichy pratiquement tous les étés. Vichy est vraiment la reine des villes d'eau incontestée, avec un central téléphonique inauguré en 1935 par Georges Mandel lui-même. Ce central téléphonique étant un des plus modernes d'Europe, qui va permettre des communications. Une station avec des palaces tout autour du parc thermal, une capacité hôtelière de premier ordre, on a de quoi loger, on a de quoi de communiquer. Pas étonnant donc que le gouvernement se soit replié ici par commodité.
Oui, alors, ce que vous dites m'inspire la chose suivante, c'est que le gouvernement français qui va s'installer donc à Vichy à partir de juillet 40 va représenter une vision de la France quand même très particulière, va replier sur elle-même, sur ses valeurs traditionnelles. Et en fait, il va s'installer dans une ville qui est internationalement connue. C'est ça qui est très frappant. Il y a une sorte de contraste entre l'idéologie de ce régime, qui est une idéologie, on va dire, traditionnaliste, pour aller très vite, et le caractère international connu de ce lieu qui est fréquenté. Même les ambassadeurs, quand ils viennent, ce sont des endroits qu'ils connaissent. Et c'est très frappant, cette espèce de contraste dont on a d'ailleurs, qu'on sent d'ailleurs parfaitement ici, par le côté un peu luxueux, enfin, qui subsiste malgré tout dans les bâtiments.
Oui, oui, on va aller directement à l'intérieur. Allez-y, je vous en prie.
C'est la première fois que je viens là, quand même.
Donc j'imagine que la décoration est fidèle à l'opéra. Absolument, d'origine.
Hein. Rien n'a changé. Les peintures de Rudnicki, des éléments décoratifs à partir de la nature, des feuillages, des chardons, le ferronnier d'art Robert, qui a contribué à la réalisation des galeries, a réalisé toutes les ferronneries d'art qui sont remarquables, des escaliers et de tout ce qui tourne autour de l'équipement. Et beaucoup de décors des hôtels de Vichy sont des décors végétaux, comme dans toute la ville.
C'est la première fois que je viens.
C'est avec une grande émotion que je vous accueille là et que nous vous accueillons là pour la première fois. Vous qui avez tant écrit et qui avez tant communiqué sur ce qui s'est passé ici, c'est bien que vous mettiez finalement les pieds dans cet opéra de Vichy qui à l'époque était dénommé le Grand Casino, le théâtre du Grand Casino de Vichy. Alors il y a un paradoxe finalement dans cette salle, parce qu'il y a eu les heures les plus noires qui correspondent à un phénomène, un des plus noirs de notre histoire nationale, et il y a eu ici les plus grandes heures lyriques. C'était la capitale incontestée de la musique pour toute la France l'été.
C'est la première fois que je viens, c'est quand même un lieu... C'est un lieu mythique, hein, qu'on le veuille ou pas, même s'il est chargé d'une histoire assez difficile. Vraiment, un lieu mythique, c'est un lieu magnifique, visiblement entièrement restauré, rénové, mais c'est quand même très impressionnant de savoir qu'un des événements les plus terribles de l'histoire nationale, et qui a même eu des conséquences au-delà de la France, s'est déroulé dans une salle de spectacle. On ne peut pas trouver plus belle illustration que la politique parfois peut être un spectacle. Mais c'était très impressionnant de voir ces sièges et d'imaginer ceux qui étaient assis là, la violence des débats. C'est quelque chose, moi j'ai pas mal travaillé sur les débats parlementaires qui ont précédé le vote du 10 juillet, donc qui accordaient les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. C'était d'une violence. Une partie de ceux d'ailleurs qui ont fait partie des 80 qui ont dit non, on savait que leur sort n'était pas riant dans les années qui allaient venir. Donc, beaucoup de gens savaient en partie ce qui pouvait se passer dans les années à venir.
Alors revenons peut-être sur un de ces moments importants de l'histoire de France qui s'est joué ici. Rappelons que l'armistice a été signé avec l'Allemagne le 22 juin 1940. La France est coupée en deux avec une zone nord occupée et une zone sud dite libre, où déménage ce gouvernement du maréchal Pétain pour s'installer ici à Vichy. Nous sommes à 400 km de Paris. C'est le 10 juillet 1940 que les députés, réunis dans la grande salle de spectacle du Grand Casino où nous sommes allés, votent les pleins pouvoirs à Pétain. 569 parlementaires votent oui, 20 s'abstiennent et 80 votent non. Alors parmi ces 80 parlementaires, on peut citer Georges Mandel, on peut citer Léon Blum. Pourquoi Henri Rousseau, c'est un des grands moments de l'histoire de France?
Le vote des pleins pouvoirs au maréchal Pétain en 1840, c'est la fin de la Troisième République. C'est un régime dictatorial, c'est un des premiers du genre, on va dire, dans l'histoire de France. Et surtout, c'est un régime qui va s'inscrire dans un contexte qui est celui de la conquête de l'Europe par les nazis, et va faire en sorte que la France devienne un des principaux alliés objectifs, on peut dire, de l'Allemagne nazie, en offrant une proposition de collaboration à la fois politique, économique, voire idéologique. Et donc évidemment, c'est un événement. C'est un événement parce que le sort de la France se jouait ces quelques semaines de juin, juillet 40, et qu'à ce moment-là, l'issue est tout sauf écrite. Le général de Gaulle proclame le 18 juin dans son fameux appel que cette guerre est une guerre mondiale, mais il y a très peu de gens pour le dire à l'époque. Beaucoup croient au contraire, même le souhaitent, pour de tas de bonnes ou de mauvaises raisons, que cette guerre se termine. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Pétain est adulé, ovationné, va être l'objet d'un culte assez unique, je trouve, dans l'histoire contemporaine de la France. L'autre raison pour laquelle c'est une date importante, c'est que ce régime va laisser des traces indélébile dans la mémoire collective française. On le sait, on en a suffisamment parlé ces 20 dernières années. Le régime de Vichy a participé sciemment et volontairement à la solution finale. Le régime de Vichy a lutté ouvertement contre tous ceux qui s'opposaient aux nazis, donc aux résistants. Ça a été un régime qui a aidé les nazis à lutter contre les résistants, les patriotes, les communistes, enfin toutes sortes de résistances. Et donc, voilà, c'est un régime dont on a voulu dire aussi, le général de Gaulle en premier, qu'au fond, il ne représentait pas la France, il ne représentait pas l'âme véritable de la France. Oui, bah, oui et non, parce que quand même, les pleins pouvoirs lui ont été accordés à une écrasante majorité. Il a été, enfin, en tous les cas, sinon le gouvernement, du moins le maréchal Pétain, a été très fortement soutenu dans les débuts de l'occupation. Et donc, malgré tout, si ce régime a représenté un peu la France, au moins au début.
Après avoir découvert la salle de l'Opéra, théâtre du vote des pleins pouvoirs au maréchal Pétain par les députés et sénateurs, nous découvrons en terrasse, sur l'un des murs extérieurs, une petite plaque dédiée à ceux qui ont dit non. Henri Rousseau s'en approche pour la lire.
J'y vais. Dans cette salle, le 10 juillet 1940, 80 parlementaires ont, par leur vote, affirmé leur attachement à la République, leur amour de la liberté et leur foi dans la victoire. Ainsi s'acheva la Troisième République. Laissons de côté l'histoire, d'un point de vue mémoriel, pour que le geste de ces gens, qui étaient quand même un geste courageux, il faut le dire, hein, parce qu'ils étaient menacés, et certains vont le payer cher. Bon. Pour que ce geste ait du sens, il faut comprendre dans quel ensemble il se situe. Ces 80 sont une petite minorité. Si c'est 80 sur 150, bon ben non, ils sont 590. Donc à partir de là, ça montre à la fois à quel point voter contre les pleins pouvoirs était un acte très difficile, et pas simplement, comment dire, pour des raisons politiques, bon, Viviorca et d'autres, ou moi, l'avons expliqué, parce qu'il y a une telle pression psychologique. Pétain représente une telle figure que de dire, moi, député d'un régime décrié, je vais voter contre un homme qui a pris les rênes de l'État à un moment où la France est par terre, et bien toute l'opprobre était sur lui. Il fallait une résistance psychologique, pas une résistance politique, une résistance psychologique pour faire ça. Mais d'un point de vue mémoriel, c'est même, enfin, encore une fois, un peu absurde qu'on n'explicite pas, parce que c'est tout à l'honneur de ceux qu'on veut commémorer. À force de, enfin, le silence n'est pas une bonne chose en termes de mémoire. Enfin, le silence officiel, les silences privés, de, comment dire, pudiques, c'est autre chose. Mais lorsque on a ce que j'appelle un silence officiel, c'est-à-dire qu'on exprime quelque chose dans l'espace public, que ce soit une association, un pouvoir, une localité, peu importe, il faut dire les choses, parce que sinon le message, il est parfaitement incompréhensible. Et cette petite plaque dans un bâtiment, ben, si on ne sait pas ce que c'est, ce qui s'y est passé, on ne dit même pas ce qui s'y est passé là. C'est un vote.
C'est un non-dit.
Ah ben c'est un non-dit qui est étrange, parce qu'il y a des non-dits qui peuvent servir une cause, mais là, enfin pour être franc, il la dessert un peu. Voilà.
Henri Rousseau face à Vichy, c'est à suivre sur RFI.
La marche du monde, Valérie Nivelon.
Suite de notre voyage à Vichy avec l'historien Henri Rousseau, nous sommes à la recherche des traces mémorielles des années 40 à 44 sous l'État français, dans une ville restée silencieuse sur son passé, toujours guidée par Jacques Thierry et tout de suite Michel Promera du CIERV, Association d'études et de recherche de Vichy.
Donc nous sommes actuellement dans les galeries du parc qui permettaient aux promeneurs et aux touristes d'éviter les intempéries en période estivale. Et c'était un des lieux favoris des promenades quotidiennes du maréchal. C'est là aussi que se regroupait une partie de la foule qui venait le célébrer ou l'acclamer, principalement devant l'entrée de l'hôtel du parc vers lequel nous nous dirigeons. En fait, il y avait plusieurs hôtels, l'hôtel du parc et l'hôtel Aletti, qui était son pendant et qui appartenait au même propriétaire. Et en 1940, ces deux hôtels, comme bien d'autres, ont été réquisitionnés pour le gouvernement. Et le maréchal Pétain en a fait le siège, enfin son bureau. C'est un bâtiment d'architecture très classique à Vichy, très belle époque. Le bureau du maréchal est au troisième étage, là-haut, avec le balcon qui est fermé. L'étage inférieur, c'était les bureaux de Pierre Laval. Et au premier étage, c'était les collaborateurs du maréchal. Et donc là se trouve l'entrée de l'hôtel, qui est très célèbre puisqu'elle a été photographiée des centaines et des centaines de fois. La plaque Hôtel du Parc et Majestique a évidemment disparu puisque en 1944-45, l'hôtel du Parc a été réouvert, mais à condition qu'il n'ait plus d'activité hôtelière proprement dite.
Alors, il n'y a pas à proprement parler de traces sur le bâtiment lui-même. Non. En revanche, une plaque qui est posée en vis-à-vis de cet immeuble, dans cette galerie Napoléon III.
Alors il y aurait beaucoup à dire sur ce...
Henri Rousseau.
À la fois sur la vision de cet hôtel, qui est quand même le cœur du gouvernement français de l'époque, et cette plaque. Je vais le dire comme je le ressens. Une telle situation où vous avez un bâtiment qui a joué un tel rôle historique dans une ville qui elle aussi a joué un rôle important, où il n'y a aucune mention de ce qui s'y est passé, est proprement impensable ailleurs en Europe. C'est tout simplement proprement impensable. Imaginez par exemple en Allemagne, où il y a d'innombrables lieux, je ne parle pas forcément des lieux les plus emblématiques à Berlin ou les camps de concentration, mais même des lieux qui ont abrité ici un ministère, là, telle organisation qui a eu un rôle important sous le nazisme, où il n'y ait pas simplement la mention, le rappel neutre, factuel de ce qui a pu s'y passer, est proprement impensable. Et ce qui rajoute au caractère incroyable, c'est que vous avez ici cette plaque qui a été apposée par l'action de Serge Klarsfeld, qui, comme on le sait, milite depuis des années, a milité pendant des années pour la reconnaissance des crimes commis contre les Juifs en France. Et donc ça veut dire que lorsqu'on passe devant ce lieu, comme ça, un promeneur voit cette plaque qui parle d'un épisode précis qui est la livraison des Juifs étrangers de zones libres à l'été 42, c'est-à-dire qui n'étaient pas menacés directement d'une arrestation directe par les Allemands, qui ont été livrés par le gouvernement de Vichy et qui ont fait partie, disons, du contingent de juifs déportés en 1942, qui constitue presque 40% du total des juifs déportés de France sur l'ensemble de l'occupation.
Alors évidemment, pour partager les informations rédigées sur cette plaque, Henri Rousseau, avec nos auditeurs, je vous remercie de nous en faire la lecture.
Le 26 août 1942, le gouvernement de l'État français installé dans cet immeuble à Vichy a déclenché sur tout le territoire de la zone libre une gigantesque rafle de juifs étrangers. Plus de 6500 d'entre eux, dont des centaines d'enfants, ont été arrêtés ce jour-là et livrés aux nazis en zone occupée, d'où ils ont été aussitôt déportés sans retour vers le camp d'extermination d'Auschwitz. Au total, ce fut le sort tragique de plus de 10 000 juifs étrangers vivant en zone libre. Dans leur ensemble, la population française et les clergés catholiques et protestants se sont immédiatement opposés à ces mesures qui violaient les traditions et l'honneur de la France, qu'ils en soient remerciés, n'oublions jamais. Signé les fils et filles des déportés juifs de France, Association culturelle israélite de Vichy.
Quel commentaire vous inspire cette plaque, Henri Rousseau ?
Non. On commémore ici un événement important. On dit clairement que la responsabilité incombe à un gouvernement qui était à l'époque le gouvernement français, lequel était installé ici. Mais du coup, ça veut dire que toute l'action de ce régime, qui était donc dans cet endroit-là, se résume, ou se réduit plutôt, à cet acte-là, qui est évidemment un des actes les plus remarquables et les plus importants, mais tout le reste, l'action contre la résistance, la répression, le STO, les autres lois infâmes dont son gouvernement a été responsable, ne sont pas mentionnées. Et on a ce paradoxe que on n'a pas cette information-là. En revanche, on a mention d'un des crimes majeurs, bien sûr, commis par ce gouvernement, avec cette forme d'inégalité qui, à mon avis, encore une fois, extrêmement dommageable pour la compréhension historique de ce qu'on veut commémorer. Le régime de Vichy a visé les Juifs en priorité parce que c'était un régime antisémite et parce qu'il a participé à la solution finale, mais ce n'était pas les seuls. Vous voyez, ce qu'on veut cacher, finalement, vous saute à la figure.
Donc on va peut-être aller voir un dernier hôtel, puisqu'on cherche désespérément des traces factuelles sur les lieux où l'État français, hein, puisque c'est son nom à l'époque du gouvernement de Vichy, s'est installé dans cette ville. C'est vrai que c'est extrêmement difficile. Hein. On a vu ces deux plaques, mais en revanche, dans les lieux mêmes où cette histoire s'est déroulée, il n'y a aucune mention nulle part.
Oui, donc c'est les deux seules traces explicites de la période.
C'est quand même assez étonnant.
Alors nous arrivons là à proximité de l'hôtel du Portugal. On va traverser. Donc nous sommes ici devant l'hôtel du Portugal, devenu le siège de la Gestapo locale. Et ici ont eu lieu à la fin de la guerre, évidemment, notamment au moment de la libération de Vichy ou dans les semaines qui ont précédé la libération de Vichy, des scènes de torture, d'exactions qui ont été extrêmement violentes, extrêmement dures. Et pour autant, il n'en est fait évidemment aucune mention ici, où que ce soit. Pas plus qu'il n'ait fait mention au petit casino devenu centre Valéry Larbeau de la présence de la milice dans ces lieux. Et donc pour un touriste extérieur ou pour un promeneur qui ne connaît pas bien la ville, il est impossible de savoir ce qui a pu se passer ici, qui n'est pas spécifique à Vichy. Hein, dans bien d'autres endroits de France, au même moment, il s'est passé des choses aussi terribles sur le plan mémoriel. On ne sait même pas si c'est une volonté de cacher les choses ou simplement un oubli, mais peut-être le fait que ce soit un oubli serait encore pire.
Henri Rousseau.
Oui, là aussi c'est assez frappant parce qu'il s'agit du siège de la Gestapo, c'est-à-dire l'occupant, l'ennemi. Et à la limite, si vous voulez arroser de manière un peu simple, là c'était plus facile qu'ailleurs, parce que ça ne concerne pas directement les responsabilités proprement françaises. Et donc on a le même phénomène de non-mention, enfin d'absence de toute mention. J'insiste encore une fois, c'est un cas quand même assez particulier. Bon, bien sûr qu'il y a des exemples ailleurs et pas simplement en France, mais dans un lieu aussi emblématique, une telle absence de mention aussi systématique est un peu hors norme dans une époque qui a quand même fait de la mémoire, et en particulier la mémoire de cette période, un investissement à la fois un marqueur, ce que j'appelle un marqueur démocratique, et un investissement politique très important. Mais c'est quand même assez étonnant, et j'oserais dire, moi qui suis plutôt critique des politiques de mémoire, là on a exactement l'inverse. Une absence totale d'information sur un lieu comme ici, c'est proprement incroyable.
Bonjour madame, bonjour, vous vous demandez ce qui se passe devant votre immeuble. Alors je vous présente l'historien Henri Rousseau, qui est spécialiste de l'histoire de la mémoire. Et dans son dernier livre, Face au passé, il consacre un certain nombre de pages sur la mémoire de Vichy de l'État français. Et à cette occasion, nous revisitons un certain nombre de lieux. Savez-vous justement...
Donc celui-là qui parle beaucoup, quoi, qui est très...
Mais sur le bâtiment, est-ce qu'il y a une mention qui rappelle la destination?
Non. Et on peut rien deviner non plus dans les caves, ni... Je pense pas,
donc
non.
Vous le savez.
Je
vous
le sais.
Aussi, tous ceux qui sont ici d'ailleurs.
Ben, je me doute.
Qu'est-ce que vous en pensez, madame? Vous vivez dans cet
oui,
immeuble?
Oui, j'habite là au cinquième, en haut, oui. Non, mais moi,
Qu'est-ce que vous en pensez?
Mais moi, le passé me... me dérange pas. Même quand je descends à la cave, je suis pas du tout inquiète. Je suis pas imprégnée par ce passé du tout. Je suis née à la fin. Donc, au contraire, j'aimerais mieux connaître. Et je vois qu'il y a de temps en temps des conférences organisées par l'Office du tourisme.
Qu'est-ce que vous penseriez d'une initiative qui pourrait indiquer, par exemple, comme souvent dans les autres villes du monde, ce qu'il y avait ici, c'est-à-dire le siège de la Gestapo?
Au contraire, moi, puisque c'est l'herbe du temps, c'est qu'il faut remettre en avant toute cette histoire. Donc, pourquoi pas? Je me souviens qu'en 70, l'hôtel du Portugal, c'était magnifique, c'était rempli de fleurs. Et ça, j'en garde un souvenir extraordinaire. Je ne savais pas du tout que ça avait été le siège de la Gestapo. J'avais je ne sais pas combien d'années de moins. Et je peux vous dire qu'il y a des personnes âgées dans cet immeuble, hein, entre 70 et 80 ans. Ils n'en parlent pas. Le passé, on ne l'a jamais évoqué.
Que représente ce voyage dans la ville de Vichy pour le spécialiste de la mémoire et de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale que vous êtes?
Ce séjour représente un petit regret. Le regret de ne pas l'avoir fait peut-être plus tôt. Enfin, je suis venu ici quand j'ai commencé à travailler sur cette période et très vite, je n'ai pas vu à l'époque l'intérêt de m'y intéresser de plus près. Mais, d'abord, nous sommes 20 ans, même plus, 25 ans après, la question de la mémoire a changé, la présence du passé est beaucoup plus forte, et la présence de ce passé-là, on le sait, j'ai beaucoup écrit là-dessus, est devenue quasi obsessionnelle. Donc le fait de revenir, évidemment, prend une autre signification. Je reste quand même très surpris par cette absence volontaire de traces, qui, dans une ville comme celle-là, mériterait quand même que soit dite un certain nombre de choses. Pas du tout sur le mode ni de la culpabilité, ni soi-disant de la repentance, mais tout simplement pour faire face justement au passé dans un univers qui fait, lui, au contraire, ou dans lequel on fait parfois trop face au passé. Voilà, ici, il y a un manque. C'est un peu un contre-exemple, là. C'est par rapport à des situations que j'ai pu observer ailleurs en France, en Europe, ou voire dans d'autres pays du monde. Donc c'est presque une curiosité, on va dire.
Henri Rousseau, j'ai envie de solliciter votre propre mémoire d'historien. Quels souvenirs gardez-vous de votre première consultation des archives de la période de Vichy?
Alors la toute première, ça n'était pas aux Archives nationales. La toute première fois où j'ai ouvert un carton qui contenait des documents de cette période, des documents publics, c'était au Centre de documentation juive contemporaine, aujourd'hui le Mémorial de la Shoah, qui était pratiquement le seul endroit à Paris, en France, où on pouvait consulter de manière entièrement libre des documents de cette période. En l'occurrence, je m'étais intéressé, j'étais je crois un des premiers à m'être intéressé à la question de l'arianisation, c'est-à-dire la confiscation des biens juifs sous l'occupation.
Vous aviez une vingtaine d'années.
Oui, j'avais quelque chose comme 22 ans à peu près. Et c'était une excitation incroyable parce que je le savais, les historiens le savaient, c'était une période à la fois sensible, c'est une évidence, sur laquelle il y avait tout à faire et qui était un énorme chantier. Puis j'ai un autre souvenir, c'est la première fois où je me rends aux Archives nationales, c'est quelques années plus tard, j'aperçois dans la petite salle soubise un homme avec une très belle tête, blond, qui a une tête d'acteur américain, pour tout dire. Et je le reconnais immédiatement, parce que c'était Robert Paxton, qui entamait son troisième livre, pour lequel il est très connu, Vichy et les Juifs, qui vient d'être réédité d'ailleurs. Et c'est à ce moment-là que je vais le voir et que je lui adresse pour la première fois la parole. Ça a été, non pas que je le considérais comme un dieu vivant, bien sûr, ce pourquoi on le prend parfois, mais parce que c'était une référence et parce que j'avais le sentiment de... Oui, c'était la première fois que je rencontrais un historien pour lequel j'avais une admiration absolument sans borne, et dont on m'avait jamais parlé durant mes études, puisque j'ai découvert le livre tout seul quand j'ai commencé à travailler là-dessus.
Thank you. Directeur de recherche au CNRS, auteur du syndrome de Vichy de 1944 à nos jours, et de Vichy, un passé qui ne passe pas, l'historien Henri Rousseau est face à la ville de Vichy dans la marche du monde. Nous sommes toujours guidés par Michel Promerat dans l'ancienne capitale de l'État français. Alors, expliquez-nous, Michel, où nous nous trouvons.
Nous sommes à la médiathèque Valéry Larbeau de Vichy. Et nous allons en direction du deuxième étage où se trouvent les fonds patrimoniaux et où se trouve en particulier le fonds consacré à l'État français que nous allons visiter sous la conduite de Fabienne Gélin qui est responsable de ces fonds patrimoniaux ici.
Donc dans ce fonds État français, on a... Pas d'archives d'abord, parce que ça, beaucoup de gens nous posent la question. Évidemment, les archives qui concernent cette période sont reparties avec l'administration à Paris. Et donc, nous n'avons pas d'archives au sens propre. Nous, ce qu'on a retrouvé, simplement, c'est des restes de la propagande, soit sous forme de photos, soit sous forme d'affiches. C'est donc les anciennes bibliothécaires qui trouvent dans les caves du Petit Casino, qui avait abrité, comme tous les bâtiments de Vichy, forcément des administrations... Et elles ont trouvé dans les caves des photographies avec encore ce qu'on peut voir ici. C'est-à-dire, il y a le cliché avec le numéro de visa et la légende rédigée à l'intention des journalistes qui explique le cliché.
Alors justement, est-ce qu'on peut décrire un petit peu ces clichés?
Alors, j'avais repéré celle-ci parce que celle-ci nous est très demandée. Les photographies de la séance où sont votés les pleins pouvoirs à Philippe Pétain. Et donc là, il y a une légende très courte. Vichy, le 10 juillet 40, l'Assemblée nationale, la tribune des parlementaires et de la presse. On ne précise pas encore le résultat de la séance.
Enfin, on pouvait pressentir le résultat quand même. Oui, alors en général, soit vous avez une légende qui est faite par le photographe ou par l'agence elle-même, mais sur les consignes officielles. Là, oui. C'est clair que ce sont des photos qui ont été commanditées. Alors, de toute manière, enfin, je dis ça un peu rapidement, que ce soit dans un cas comme dans l'autre, il faut toujours se méfier de la légende. Ça, c'est vraiment une leçon majeure pour tous ceux qui travaillent sur ces périodes-là. Souvent, les légendes ne sont pas toujours exactes. Mais là, ce qui est très intéressant, c'est effectivement ce qu'on pourrait appeler la vie locale, entre guillemets. Enfin, locale, parce qu'elle est quand même... Elle a une dimension assez internationale, avec la présence des ambassadeurs. Là, j'ai vu passer une photo, par exemple, une réception organisée par Otto Abetz, qui est quand même l'ambassadeur du Reich à Paris, en fait, mais qui venait à Vichy.
Henri Rousseau, ce qui est intéressant, c'est que là, sur ces photographies d'époque, on retrouve toute l'architecture de la ville, toutes ces rues, tous ces hôtels qui ont été investis par l'État français. Et on voit aussi, une fois de plus, la mise en scène du maréchal Pétain, avec cette présence des bains de foule, et aussi des enfants.
Oui, l'enfance est évidemment un des thèmes récurrents de l'idéologie de l'État français pour plusieurs raisons. D'abord parce que la famille, bien sûr, dans le mot d'ordre travail, famille, patrie, était un des éléments essentiels de cette idéologie. Mais aussi parce que le régime a un discours sur le futur, ce qui peut paraître évidemment paradoxal avec le recul. Au lendemain de la défaite où le pays s'est complètement écroulé, où l'État s'est effondré, le discours sur l'avenir, sur le futur, quels que soient les aspects, va être extrêmement présent. Et évidemment, dans ces cas-là, les enfants, et surtout les jeunes enfants, représentent l'image d'un espoir, d'un futur possible. Mais ce qui est frappant dans ces photos, mais ça, on le savait, c'est à quel point ce qu'on a appelé le royaume du maréchal, qui est une expression que je n'aime pas beaucoup, mais il était confiné dans un espace quand même relativement réduit. D'abord, la ville elle-même de Vichy, qui n'est pas très grande, où l'ensemble de la zone non occupée jusqu'en novembre 42, quand même, qui était une petite partie du territoire français. Et c'est cette obsession de, malgré la petitesse de ce territoire, de marquer sa présence, même les photos ou les films qui ont été tournés par la propagande du régime montrent à quel point on essaie de donner le sentiment qu'il est au fond toujours le chef d'un État souverain, ce qu'il n'est pas. J'ai appelé ça une sorte de... C'est une métonymie du territoire français. Le petit espace doit représenter la totalité d'un espace imaginaire, puisque le reste de la France, évidemment, est occupé. Voilà.
Du coup, Fabienne Gélin, en ce qui concerne l'iconographie de cette période de Vichy, de l'État français, on voit ici des photographies. Donc vous avez également des affiches avec du texte. On voit bien qu'il y a une mise en scène, c'est comme une grande pièce de théâtre. avec ce décor incroyable qui est la ville de Vichy. À travers les documents que vous avez ici, est-ce qu'on voit autre chose que cette mise en scène, justement, de ce maréchal Pétain, sauveur de la France, paternaliste? Est-ce qu'on peut arriver à décrypter des traces de la réalité du régime?
Alors, en tout cas, sur le plan local, après nous, ce qu'on va avoir, c'est des affiches textes. C'est celles qu'on retrouve dans toutes les villes, je pense, à l'époque. C'est la mairie qui applique les lois et décrets qui sont pris à ce moment-là.
C'est-à-dire
par exemple, le recensement des Juifs, à un moment donné. C'est les affiches sur le ravitaillement, toutes ces questions d'organisation de la vie locale. Il y en a une qui est assez, intéressante sur la reprise des cours de l'école de musique et il faut s'inscrire au bureau des réfugiés.
L'une des caractéristiques du régime, qui est d'ailleurs très peu connue, parce que visuellement on a l'habitude de voir les affiches antisémites, parfois d'une grande violence, les affiches qui émanent directement du gouvernement n'ont pas fait de propagande antisémite. C'est une chose qu'on a découverte il y a assez longtemps déjà, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas affiché sous la forme d'une propagande par l'image, la haine des Juifs. Alors la haine des Juifs s'exprime évidemment par les textes, c'est une évidence, et le recensement c'est l'affichage d'une décision du gouvernement, donc qui doit en plus être appliqué et respecté, c'est le sens de l'affiche, il faut se faire recenser, c'est ça ce que ça voulait dire. En revanche, la plupart des affiches antisémites, il y en a, elles sont innombrables de l'époque, n'émanent pas directement du gouvernement. Pourquoi je dis ça? C'est pas que le gouvernement avait des sentiments de remords, c'est que c'était quelque chose de parfaitement calculé. Il y a un autre exemple qui est là aussi très peu connu, le maréchal Pétain, sur les 4 années d'occupation, n'a jamais prononcé le mot juif officiellement dans un de ses discours. Donc c'est très frappant de voir à la fois une politique qui a été une des politiques antisémites les plus dures qui soient, une des politiques d'exclusion. C'est le statut des juifs qui crée des citoyens de seconde zone. C'est vraiment la dernière rupture majeure avec la République. La raison de tout ça, c'est qu'ils savent très bien que ça peut avoir un effet contre-productif. Et qu'à trop vouloir montrer la persécution envers une catégorie, ils peuvent ou ils pourraient susciter des sentiments de sympathie spontanés de la part de la population. C'est pour ça qu'ils ont évité de le faire.
Merci. C'est à votre disposition, ça, sans problème.
Merci, Fabienne.
Mais vous n'allez pas partir sans le...
Sans quoi?
Sans nous signer l'exemplaire des fonds patrimoniaux. Deux derniers livres de Monsieur Rousseau, face au passé.
Henri Rousseau, avec ce nouveau livre, Face au passé, cet essai donc sur la mémoire contemporaine, vous allez jusqu'à poser la question suivante. Mais pour combien de temps encore les jeunes générations vont-elles accepter de porter le fardeau de leurs prédécesseurs? Alors, est-ce que c'est une remise en question de tout le travail de la société civile pour obtenir la reconnaissance de la responsabilité de la France dans la déportation des Juifs, ce qu'a d'ailleurs reconnu Jacques Chirac en 1995?
Non, c'est acquis. Non, il n'y a aucune remise en cause, puisque c'est acquis. Et en plus, je pars du principe que la reconnaissance des crimes commis dans le cadre de la Shoah, que ce soit par les nazis ou par leurs complices, comme le régime de Vichy, est un fait acquis, a donné lieu à la fois des politiques de reconnaissance, le discours de Jacques Chirac de 1995, des politiques de réparation, des politiques de commémoration, des monuments. Bon, ce sur quoi je m'interroge, c'est que, bon, il y a la Seconde Guerre mondiale, il y a d'autres événements qui constituent aussi des points de référence sur lesquels on a une forme d'obsession mémorielle. Il suffit de voir ce qui se passe en France depuis 2 ans, avec la commémoration conjointe à la fois du centenaire de la Première Guerre mondiale et des 70 ans de la Seconde Guerre mondiale. On a un président de la République qui a participé à peu près, je ne sais pas, 30 ou 40 commémorations, célébrations, réunions, etc., où il est lui-même présent pour parler d'histoire. En France, dans d'autres pays, enfin surtout en France pour l'Europe, la commémoration de la mémoire, c'est devenu d'une banalité affligeante. C'est-à-dire commémorer la guerre mondiale, c'est quasiment du quotidien. Et donc, on a perdu un peu l'aspect, comment dire, symbolique, fort des commémorations. Mais la question que je pose, c'est pas une question morale, au sens, c'est une question, la question d'un historien qui a des enfants, et qui s'est dit, est-ce que les générations qui vont venir vont accepter ce devoir de mémoire qui a constitué un des fondements des démocraties modernes, notamment des démocraties européennes, qui était sans doute nécessaire, il n'y a aucune remise en question de ce point de vue-là. mais sur lesquels on a misé énormément d'espoir. Et on a attendu beaucoup de ce devoir de mémoire.
On a attendu le plus jamais ça et on s'est trompé.
On a attendu le plus jamais ça, la fin du racisme, de l'antisémitisme. C'est exactement le contraire qui se passe. Donc, alors, un, il y a une question d'efficacité. Qu'il ait fallu le faire, c'est une chose. On a rendu hommage aux victimes, on a reconnu les crimes, c'est très bien. Mais prétendre que ça a eu une efficacité, il faut être peut-être sans doute beaucoup plus réservé et plus critique. On peut faire le bilan quand même de ces politiques de mémoire après 30 ans, entre 20 et 30 ans. Bon. Et puis on peut s'interroger, c'est la question que je pose, je la pose, je n'ai pas la réponse. Est-ce que les générations futures pourront fonder leur avenir sur l'entretien permanent du souvenir des grands crimes de l'Europe du XXe siècle ?
Merci Henri Rousseau.
Merci.
Henri Rousseau, face au passé, c'était un documentaire sonore de La Marche du Monde, signé Valérie Nivelon et Cécile Pompeani. Je vous recommande vivement le livre de l'historien Henri Rousseau, Face au passé, un essai sur la mémoire contemporaine aux éditions Belin. Il me reste à remercier chaleureusement Michel Promera et Jacques Thierry du Centre international d'études et de recherche de Vichy pour nous avoir guidés sur les lieux historiques de l'État français, ainsi que Fabienne Gelin, responsable des fonds patrimoniaux de la médiathèque. Pour en savoir plus, je vous invite à vous rendre sur la page de La Marche du Monde sur rfi.fr. Écrivez-nous. marche.monde@rfi.fr. Réagissez sur notre page Facebook. Podcastez cette émission, c'est la vôtre.